morning edition from NPR News.
Merci, Tinsan.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, je vous emmène au Maroc parce qu'il faut parler de cette condamnation à un an de prison ferme de cette jeune journaliste accusée d'avortement et de relations sexuelles hors mariage. Ce jugement parle de loi rétrograde dans une société qui, elle, bouge, mais à quel point? Le jugement parle politique aussi, on y viendra très vite. Le bruit du monde dans les effluves de cannabis au Lesotho, premier pays africain à cultiver et commercialiser le cannabis thérapeutique. Et puis dans le bruit du monde, la suite, Amélie Perrier nous emmène voir des saumons du Chili et des dragons en Indonésie. Le cinéma en VO et Eva Bétan qui a vu Atlantique et Port Authority. Et puis le monde à l'envers, c'est Jean-Marc Four qui trouve que la patronne de la commission a raison en parlant de mode de vie européen. Attendez de l'écouter avant de crier. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Leïla Tawil.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous depuis Genève où vous enseignez à l'université. Vous avez écrit Féminisme arabe, un siècle de combat, les cas du Maroc et de la Tunisie. C'était l'année dernière aux éditions L'Harmattan. Et dans un instant, on rejoindra l'actrice Amal Ayouch qui est signataire de la fameuse tribune des 490 hors la loi qui a été publiée dans Le Monde. On y viendra dans un instant. Leïla Tawil, Hajar Hassouni a donc été condamnée à un an de prison. On l'a dit, son gynécologue d'ailleurs, il faut pas l'oublier, à 2 ans. Ça fait plusieurs jours qu'on a envie de nous parler de ce sujet dans Un jour dans le monde, et notamment de cette fameuse tribune. Est-ce qu'on parle d'abord d'avortement dans cette affaire, de relations sexuelles hors mariage, ou est-ce qu'on parle réellement de politique parce que l'un est l'instrument de l'autre au fond ?
Ben, il me semble qu'on parle des deux, dans la mesure où effectivement les codes pénaux et les codes de la famille qui justement interdisent les relations sexuelles en dehors du mariage et l'avortement ont été promulgués par les gouvernements en place. Donc c'est une affaire éminemment politique également.
Est-ce que vous avez été douchée vous aussi? Est-ce que vous pensiez qu'elle pouvait être acquittée parce qu'il y avait eu du bruit autour de cette affaire, parce que la société civile avait l'air de se mobiliser? Est-ce que vous avez été au fond douchée ou vous avez reconnu votre pays d'une certaine façon?
Non, effectivement, j'ai été assez choquée parce que cette affaire m'a fait penser à celle de Amina Filali, qui s'est suicidée en mars 2012 et qui avait été, après avoir été contrainte à épouser son violeur. Et on a vu que la mobilisation de la société civile, la mobilisation des féministes historiques et des jeunes féministes ont justement poussé le gouvernement à adopter une abrogation du paragraphe de l'article 475. Donc je pensais effectivement que la forte mobilisation de la société civile et des féministes, qu'il faut vraiment saluer, allait également influer sur les décisions du tribunal ici.
Ce qui n'a pas été le cas, et pourtant vous le dites, vous le dénoncez aussi, vous n'êtes pas la seule, on le lit beaucoup, à dénoncer à la fois le côté très ambivalent au fond de la société marocaine avec des lois archaïques, des pratiques évidemment qui, elles, sont beaucoup plus conformes, j'allais dire, à la vie. Donc ça, on le dénonce depuis très longtemps. Et pourtant, est-ce que des choses changent réellement au Maroc? On a l'impression plutôt de faire un pas en avant et deux pas en arrière.
Alors, effectivement, c'est une société traversée par des forces
opposées.
De démocratisation, oui, opposées, et des forces conservatrices. Alors effectivement, on a des avancées comme les réformes du code du statut personnel, le code de la famille en 2004. Et puis nous avons des réactions très réactionnaires liées notamment à la pression islamiste dans la société marocaine, qui fait que nous sommes dans des sociétés tiraillées entre des aspirations à la modernité et des projets de société qui se fondent sur un projet conservateur, et la question des femmes est au centre de ces mutations sociales et de transition vers une démocratisation.
Contrôler la sexualité des femmes, c'est les contrôler elles-mêmes, hein, évidemment. Entretenir une frustration sexuelle aussi, d'ailleurs, c'est peut-être contrôler un peuple, non ou pas ?
Ce qui s'est passé, en fait, dans l'ensemble des pays arabes et musulmans, c'est que après les indépendances, autant les gouvernements étaient dans un processus de modernisation, mais sans démocratisation. Et effectivement, autant il y a une sécularisation de différents pans de la société, au niveau de l'éducation, de la culture, de la politique, autant la question des femmes est restée assujettie à un droit médiéval musulman. Et c'était une manière, effectivement, de les contrôler, puisque elles sont assignées un statut de mineur.
Mais, pardon, allez-y, pardon, je vous en prie.
Oui, ce qui n'empêche pas que la réalité sociologique fait que les femmes sont éduquées, les femmes se mobilisent, occupent des postes de pouvoir et travaillent, etc.
Mais est-ce que les freins à ce changement, c'est juste le pouvoir et cette société, y compris islamisante, que vous nous avez décrite, ou est-ce que la société elle-même aussi produit ses propres freins et hésite elle-même à se bousculer, en fait ?
En fait, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement, c'est que depuis les printemps arabes, on est vraiment dans une transition historique. C'est-à-dire que autant les mouvements féministes historiques qu'il faut vraiment saluer après les indépendantes, ce sont des forces de démocratisation. Elles se sont battues sur un plan politique, le plan social, le plan juridique. Mais on a vu que à partir des printemps arabes, il y a une véritable libération de la parole et on n'a plus peur de parler des sujets tabous tels que la question du corps des femmes et de la sexualité. Et puis, face justement à ces gouvernements qui sont déchus et par l'initiative des peuples, eh bien, on est dans un nouveau paradigme politique. Et comme la question des femmes et la question du corps des femmes et de la sexualité en tant que sujet, en tant qu'individu, n'est pas encore débattue publiquement, eh bien, on est encore dans des représentations patriarcales qui font que le corps des femmes, dans les représentations et dans les pratiques, appartiennent à la famille, à la communauté, à l'État. Et ça, c'est un véritable scandale qu'il faut dénoncer parce que les pays arabes et les pays musulmans ne pourront aucunement prétendre à la démocratie tant qu'ils considéreront leur sœur, leur mère, leur fille, leur femme comme étant une propriété.
On posera la question aussi à Amal Ayouch dans un instant. Avant de lui donner la parole, par rapport à ce que vous dites, dans le fameux texte des 490 qui a été signé par ces femmes marocaines, il y avait l'idée que la société marocaine est mûre aujourd'hui pour le changement et pour ce changement. Est-ce que vous le pensez ? Est-ce que oui, c'est le moment ? Est-ce que cette discussion, à la faveur peut-être de cette condamnation, est-ce que la société est mûre pour cette discussion-là, maintenant, aujourd'hui au Maroc ?
Alors d'abord, saluons les 490 marocaines qui publient ce manifeste, qui est un équivalent du manifeste
des 463 salopes, absolument,
et c'est très courageux. Des 343 salopes, oui, et qui a justement participé à la dépénalisation de l'avortement. Et donc dans ce manifeste, elles mettent bien en évidence que justement leur corps leur appartient, il n'appartient ni à leur père, ni à leur mari, ni à leur entourage, encore moins à l'État. Et donc, évidemment, c'est une question d'actualité, parce que, comme le dit également Leïla Slimani, qui est co-auteur de ce manifeste,
bien sûr.
Elle a rédigé un ouvrage, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, où elle met en évidence ce décalage entre le discours et la réalité de la sexualité pratiquée, et où elle met en évidence que 52% des jeunes pratiquent la sexualité. Et donc, on est vraiment dans une révolution sexuelle silencieuse. Mais malheureusement, dans un cadre patriarcal, c'est-à-dire que c'est une culture d'hypocrisie sociale et où le fait que nous sommes encore dans le culte de la virginité, eh bien, les femmes vont, comme le dit également Sena El Hadji, qui parle de cet impératif de la virginité, eh bien, elles vont faire une forme de bricolage pour répondre justement à cet impératif patriarcal en se faisant violence, par exemple, à travers la reconstruction de l'imam, ce qui est inadmissible parce que, au fond, c'est quelque part continuer à consentir au fait que le corps des femmes appartient aux hommes.
Leïla Taouil, restez avec nous. Bien sûr, je voudrais saluer Amal Ayouch qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes actrice, comédienne, vous êtes avec nous depuis Grenoble parce que c'est là que vous avez joué. J'ai envie de vous poser d'abord la même question que j'ai posée à Leïla Taoui il y a un instant. Est-ce que vous pensiez-vous que quelque chose pouvait se passer, ou peut encore se passer d'ailleurs, quand vous dites effectivement dans ce texte notamment que le Maroc est mûr pour le changement, est-ce qu'on peut se dire qu'on est à un moment de basculement où la société marocaine, selon vous, n'est pas encore là, pas encore prête ?
La société dans son ensemble, c'est très difficile. On sait toujours que le changement vient par une minorité, ou en tout cas, ici, il y a quand même toute la société civile, bon nombre de personnes. C'est pas seulement 490, mais c'est des milliers de personnes qui ont signé ce manifeste. Et je ne suis pas tellement pour comparer ce 490 avec le 370 des salopes. Okay. Moi, je dis, c'est ici, il y a et des femmes et des hommes qui soutiennent un combat de toute une société qui... Est-ce qu'elle... Il y a bien sûr qu'il y a une maturité, bien sûr que Hajar Essouni va venir soulever un problème qui a déjà été soulevé à diverses reprises. À chaque fois, malheureusement, il faut qu'il y ait un choc pour un peu venir faire bouger les gens sur quelque chose, notamment sur l'avortement. C'est depuis 2015 quand même que c'est à l'initiative même royale qu'il y a eu des recommandations pour essayer d'ouvrir le débat sur l'avortement. Voilà. On parle et de... en ce qui concerne le 490, puisqu'il s'agit d'un article de loi, justement.
Bien sûr, celui sur l'interdiction de la relation sexuelle hors mariage.
Voilà, ce chiffre-là, c'est...
Ce chiffre symbolique. On a entendu tout à l'heure Leïla Taoui nous parler d'une révolution sexuelle silencieuse. Elle citait Leïla Slimani tout à l'heure, qui dit dans son livre quelque chose comme « on ne sait plus s'aimer dans ce pays ». Est-ce que vous avez le sentiment que c'est assez juste, au fond, entre effectivement cette révolution sexuelle silencieuse, la peur aussi que peuvent générer des arrestations comme celles qu'on a vues, est-ce qu'on sait encore s'aimer au Maroc ?
Tout à fait, on sait s'aimer partout dans le monde. C'est pas une révolution sexuelle silencieuse. Pour moi, c'est une évolution normale de la société qui vit son temps et qui vit son époque. Donc, c'est simplement que les lois n'accompagnent pas cette société et ces jeunes. Et voilà, donc, après, on sait pas, c'est pas qu'on, c'est cette société qui évolue, qui vit son temps, mais qui vit aussi avec ses contradictions, ses problèmes. Mais bon, s'aimer malgré et contre tout, quoi. C'est pour moi, ça n'a pas de loi, ça n'a pas d'époque.
Entre le poids de la société que vous décrivez, le poids des parents parfois, le poids de la religion dont on parlait, quel est le poids qui pèse le plus lourd au fond?
C'est tout, c'est le tout qui pèse, c'est le tout, c'est ses propres contradictions, ses propres tabous, c'est les tiraillements de toute jeune personne, jeune fille, jeune femme, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, le mariage, on se marie plus au même âge, on n'oblige plus, comme avant, les jeunes filles, il y en a qui refusent, qui ont le droit de refuser, qui prennent leur indépendance, qui ont envie de vivre selon leurs propres aspirations, de manière moderne et responsable, parce que c'est ça qui est important, c'est que c'est des femmes qui assument leur maturité et puis leur on est plus sous tutelle, puisque là aujourd'hui quand même on a gagné ça grâce aux avancées du code de la famille de 2004. La jeune femme, à partir d'un certain âge, n'est plus sous tutelle, donc elle l'assume.
Le fameux code de la Moudawana de 2004, Amal Haddouche, merci beaucoup. Leïla Taoui, est-ce que le pouvoir bougera tant que la société, en gros, ne fera pas parler d'elle plus brillamment? Qui doit faire le premier pas dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir plus fort, en fait, pour que ça marche?
En fait, ce qui caractérise également les printemps arabes, c'est que il y a une forte mobilisation de la jeunesse qui est éduquée, qui est ouverte au monde et qui mobilise les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont également pour effet de pouvoir provoquer des débats sociaux et des décisions politiques. Donc ça peut peser. Et ce rapport de force qui peut exister, justement, parce que effectivement il y a une évolution sociologique, je rejoins totalement ce qu'a dit ma collègue. Oui. Mais il se trouve que aujourd'hui, contrairement aux sociétés prémodernes avant les indépendances des années 60, les mariages, l'âge de mariage sont retardés. Et s'il existe effectivement des relations amoureuses qui se font comme partout ailleurs au monde, elles sont condamnées par des codes, par un code pénal qui condamne les relations sexuelles hors mariage et l'avortement. Donc, comme le dit à juste titre la jeune féministe Ibtissam Betty, qui est cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, aujourd'hui, cette affaire de Hajar Ressouni, eh bien, elle met en lumière ces discriminations qui sont des inégalités légales. Eh bien, cela pourrait provoquer un véritable débat de société. Ça pourrait solidariser la société pour revendiquer les droits sexuels et reproductifs et dénoncer cette domination masculine relative au contrôle du corps des femmes.
Mais vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé des révolutions arabes, il n'y a pas eu de révolution arabe au Maroc. Est-ce que la crainte, au fond, c'est que si on change la société, si on la change trop vite, si on fait un virage un peu trop brutal, ce seraient les prémices, justement, un désordre. Est-ce que ça ne dit pas ça, aussi, la fermeté de ce jugement ?
Écoutez, moi, je pense d'une manière beaucoup plus fondamentale, que les gouvernements musulmans et arabes gagneraient à mettre en place des démocraties avec une séparation des pouvoirs en garantissant les libertés individuelles, parce que aujourd'hui c'est la démocratie et les libertés individuelles qui garantissent une paix sociale, une pacification. Donc c'est également dans leur intérêt. Le problème, c'est que depuis des siècles et après les indépendances, on est face à des gouvernements autoritaires qui continuent à fonctionner sur des modèles politiques moyenâgeux, qui considèrent que l'ordre social est fondé sur le contrôle des consciences individuelles et de leur attitude, notamment à travers la religion. Donc il faut absolument, les gouvernements arabes et musulmans gagneraient à adopter, et notamment le Maroc bien entendu, à écouter ces forces démocratiques, et qu'il y ait des débats avec les forces conservatrices, qu'il y ait des débats avec les islamistes, parce que ce que doivent comprendre...
Allez-y, pardon, je vous laisse finir, mais il faut qu'on finisse, allez-y.
Oui, ce que doivent comprendre tous les citoyens, qu'ils soient croyants, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient agnostiques ou athées, c'est qu'un État sécularisé ou laïque protège les croyances et les non-croyances de tous les individus. Donc c'est dans l'intérêt de toutes et tous.
Merci beaucoup Leïla Taouil, merci mille fois. Merci aussi à Mela Youch d'avoir répondu à nos questions.
Oui, moi j'aurais voulu parler.
Le 18-20, Fabienne Saintès sur France Inter.
C'est vrai qu'on aurait continué volontiers cette discussion. À un moment, il faut s'arrêter, on la reprendra. La suite, ça se passe au Lesotho, au pays africain pionnier du cannabis. Le bruit du monde, la suite. Amélie Perrier, vous venez avec vos dragons ce soir.
Oui, des dragons du Komodo. Vous savez, c'est effrayant. Eh bien, les touristes vont continuer à aller les voir en Indonésie.
Et ça habite en Indonésie, le cinéma en VO. Eva Béton, deux films pour le prix d'un.
Oui, je vais vous amener avec la jeunesse de Dakar et avec la jeunesse des favorisés de New York.
Allez, c'est dans le monde à l'envers, Jean-Marc Faux. Salutations. Bonsoir, notre fameuse identité européenne. Alors, chère à la patronne de la Commission, il y en a une.
Oui, je vais faire poil à gratter sur la protection du mode de vie européen.
Allez, ne bougez pas et profitez de Feast. Mushaboom.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up and planted lilacs and buttercups. Oh, but in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay. Thank you.
light, tucked in the woods and out of sight. Talk to the neighbors and tip my cap on a little rug belly on the mat.
Il en fait un bruit, le bruit du monde, ce soir. Nous sommes dans l'un des tout petits royaumes d'Afrique, le Lesotho, territoire montagneux, enclavé dans l'Afrique du Sud, le royaume dans le ciel, comme on le surnomme, parce qu'il est le seul pays au monde dont toutes les terres sont au-dessus de 1400 mètres d'altitude. En 2017, c'est aussi devenu le premier pays africain à légaliser la culture du cannabis médical, utilisé ensuite par l'industrie pharmaceutique. Au Lesotho, on appelle ça l'or vert. En réalité, ça fait des siècles que le peuple Soto fait pousser de la marijuana, la makekwane. Mais les petits producteurs aimeraient aussi pouvoir s'y mettre à grande échelle, et c'est ce que vous allez comprendre grâce à Noé Oshiboda.
C'est évidemment l'or vert de notre pays. Nous avons ce que nous appelons le diamant blanc, ce sont nos réserves d'eau. L'or vert, c'est notre cannabis.
Sur les hauteurs de la petite ville de Maracabeis, Lebo Lipoto nous fait visiter sa nouvelle unité de production. Il est chef des opérations de Medigro, une entreprise basée au Lesotho. Il nous reçoit dans les montagnes du centre du pays. C'est ici que Medigro a choisi d'installer ses serres agricoles il y a 2 ans.
Nous avons plusieurs serres, 3 rangées de 6, ça fait 18. Elles couvrent une surface de 5000 mètres carrés. C'est ici que nous cultivons notre cannabis en ce moment.
This is where we are doing our cultivation currently.
Mais bientôt, nous allons l'étendre à plus de 95 000 mètres carrés.
Additional 95 000 square meters.
Medigro fait partie de la dizaine d'entreprises à avoir parié sur ce nouveau marché au Lesotho. Et les perspectives sont belles car le marché du cannabis est d'une valeur de 150 milliards de dollars dans le monde et devrait doubler d'ici 2028. Alors l'investissement de Lebo est colossal.
Currently, we have invested close to 300 million.
Jusqu'à maintenant, nous avons investi plus de 17 millions d'euros. Pour le moment, nous avons 2000 kilos de biomasse, ce qui devrait nous permettre de produire 1000 litres d'huile de cannabis. Pour les prix, vous pouvez vendre un litre d'huile entre 6 000 et 30 000 euros.
Un prix astronomique qui nécessite des moyens extraordinaires. Un héliport est d'ailleurs en construction sur le site pour pouvoir acheminer plus rapidement la marchandise vers la capitale, Maseru. Medigro compte 300 employés pour le moment, 3000 dans quelques mois, assure l'entreprise. De quoi satisfaire la vice-ministre de la Santé, Manta Biseng Pocheli, qui nous reçoit au ministère à Maseru.
It's a very good opportunity.
C'est une très bonne opportunité pour le Lesotho. Ça attire beaucoup d'investisseurs étrangers. Le secteur emploie 3000 personnes environ. Pour ce qui est de notre économie, nous faisons payer 30 000 euros la licence d'exploitation. Et tous les ans, il faut la renouveler, ce qui nous rapporte 23 000 euros de plus chaque année. Donc vous pouvez voir que c'est un marché lucratif pour nous.
This industry, so surely it tells you a lot.
La légalisation profiterait donc aux caisses de l'État, aux industriels et aussi à quelques milliers de chanceux qui peuvent décrocher un nouveau travail. Qu'en est-il néanmoins du reste de la population, de ces petits agriculteurs locaux qui voudraient eux aussi entrer dans ce marché d'avenir?
En ce moment, nous possédons 7 hectares et demi que nous avons peu à peu achetés. Sur cette terre, on produit des pommes, des pêches et même du raisin.
Motiba Tamaye a 38 ans, il gère ses 7 hectares et demi avec ses deux frères. Ils cherchaient récemment à étendre leur culture.
On avait pensé au cannabis au moment où ils l'ont légalisé au Lesotho. Mais on a remarqué que c'était trop difficile pour nous d'avoir une licence. C'est trop cher, on ne peut pas la payer. C'est frustrant car on espérait qu'ils donneraient des licences moins chères pour les petits agriculteurs afin de leur donner une opportunité à eux aussi. Mais ça a l'air trop compliqué pour eux.
Motiba appelle donc les autorités à intégrer les petits producteurs locaux comme lui. D'autres, plus résignés, continuent à cultiver puis exporter illégalement la marijuana vers l'Afrique du Sud. C'est le cas de Del Faso, un agriculteur du nord du royaume.
Cela fait 22 ans que je cultive le cannabis. Car j'ai un enfant à l'université, un autre à l'école. Le cannabis est un extra qui me permet de payer mes frais. C'est un moyen de survivre aussi. On n'a pas le choix au Lesotho. Voici mon cannabis. Lorsque je l'ai dans mes mains, je le regarde comme un trésor du Lesotho. Les gens qui disent que c'est un or vert, ils ont tout à fait raison.
Le trafic n'est lui rien de nouveau. Les Nations Unies estiment d'ailleurs que 70% du cannabis en Afrique du Sud provient des montagnes du Lesotho, où la marijuana illégale est historiquement la troisième source de revenus du royaume.
Noé Auchet-Baudin pour le reportage. Merci beaucoup et à très vite. Le bruit du monde sous les radars, c'est Amélie Perrier et c'est tout de suite. C'est le bruit d'un dragon, enfin bon, je sais pas trop, je suis pas très sûre. Mais en tout cas, nous sommes en Indonésie et nous sommes dans l'île du Komodo, de Komodo, Amélie.
Oui, c'est l'île justement qui abrite les célèbres dragons.
Donc il y a doute, il se peut que ce soit un dragon.
De Komodo.
Au cœur de ce monde marin agité, dans les îles du sud de l'Indonésie, le roi lézard a élu domicile. Le dragon de Komodo.
Oh oui, ça fait peur. Merci National Geographic. Donc si vous ne visualisez pas, c'est un énorme lézard.
On a vu Game of Thrones.
Les adultes pèsent entre 70 et 100 kilos. Ils mesurent près de 4 mètres de long. Une gueule tout droit sortie de la préhistoire. Un dangereux reptile carnivore dont il reste moins de 3000 spécimens sur cette île indonésienne. Dans un premier temps, les autorités avaient annoncé la fermeture du site pour protéger les animaux face au tourisme de masse. Environ 10 000 visiteurs viennent chaque mois dans le parc de Komodo. Aujourd'hui, ces autorités préfèrent instaurer un système de quotas pour ne pas tarir la manne touristique. Le tourisme, c'est un pilier de l'économie du pays. L'Indonésie voudrait répliquer en fait le succès de Bali, submergé par le tourisme de masse, à d'autres destinations, par exemple au temple de Borobudur sur l'île de Java ou au lac Toba à Sumatra. Ça ne présage rien de bon pour la préservation des écosystèmes et des cultures de ces contrées lointaines.
Au Chili, des saumons reprennent leur liberté.
Oui, car on le sait peu, le Chili est le deuxième éleveur de saumon sur le globe. Après la Norvège, le pays profite en fait d'être dans l'hémisphère sud pour produire à contre-saison. Plus de 32 000 poissons viennent de s'échapper d'une ferme d'élevage dans le sud du pays et les médias locaux sont en boucle.
El Servicio Nacional de Pesca confirmó que hubo un escape de salmones desde un centro de cultivo ubicado.
Alors ici, c'est sur la chaîne Prensa Vertice TV. Le reporter va nous raconter comment ces poissons destinés à l'exportation sont sortis d'une cage de confinement. On y a repéré une brèche de 2 mètres. Ce n'est pas la première fois que des saumons sont perdus et ça n'a rien de rassurant. Parce que si cette ferme-là élève 700 000 saumons, a priori sans antimicrobiens et sans antiparasitaires, eh bien elle a reçu quand même une certification. D'autres, en fait, n'hésite pas à user et abuser des antibiotiques. Et quand ces poissons-là s'échappent, le problème devient beaucoup plus préoccupant. L'an dernier, près de 700 000 saumons s'étaient fait label traités aux antibios. Problème, le médicament utilisé était impropre à la consommation humaine. Autre souci environnemental, celui-là, l'espèce, le saumon, est exotique et a besoin d'antibiotiques à haute dose pour survivre au Chili. C'est un élevage qui n'est pas durable, selon les écologistes. Le saumon est carnivore et a besoin de bien plus de protéines qu'il n'en produit. En fait, pour faire 1 kg de saumon, il faut 5 kg de poisson sauvage. Et les croquettes, les farines, les pesticides ou encore les colorants que l'on donne aux poissons dans les élevages finissent au fond de la mer et perturbent sérieusement l'écosystème. On constate par exemple la prolifération d'algues toxiques qui absorbent l'oxygène dans l'eau. Vous y penserez la prochaine fois que vous commanderez vos sushis au saumon.
On termine en Égypte par un retour très attendu.
Celui du sarcophage de Nedjemank, un prêtre de Hérichef, le dieu à tête de bélier. Écoutez le responsable des antiquités en Égypte, Mostafa Waziri, plutôt fier de poser devant l'objet. C'est un cercueil en bois entièrement doré. Il n'est pas très grand, bien sûr. Il s'agit de cartonnage, c'est-à-dire du bois recouvert d'or. Regardez les détails de toutes les inscriptions en hiéroglyphes. C'est vraiment incroyable, nous dit ce responsable. Alors, le sarcophage a été volé en 2011 en Égypte, pendant le printemps arabe et le soulèvement contre contre le président Moubarak. En 2017, il avait été acheté par le Met, le prestigieux musée de New York, pour environ 3,5 millions d'euros, à partir de faux papiers. Une enquête a établi qu'il avait été dérobé. Une exposition du Met dont il était la pièce phare avait alors été interrompue. L'objet, datant de la période ptolémaïque, entre 150 et 50 avant Jésus-Christ, vient de revenir au Caire, comme plusieurs milliers d'objets volés en plein trouble et récupérés ces derniers mois.
Amélie Daenerys Perrier, merci beaucoup.
Et mes dragons.
Voilà, c'est ça. Et vos dragons sur l'épaule, ça vous va très bien. Merci beaucoup et à demain.
France Inter. Un jour dans le monde.
C'est la bande-annonce d'Atlantique, oui. Celle-là. Eva Béton, aujourd'hui deux films, donc on ne va pas faire de rapprochement artificiel entre les deux, mais il y a des femmes, il y a des jeunes, ce sont des premiers longs-métrages, et on peut supposer qu'on y met beaucoup de soi, en tout cas, d'un côté comme de l'autre, en tout cas pour ces deux-là. Donc c'est avec lui qu'on commence avec ce fameux film Atlantique dont on vient d'entendre la bande-annonce.
Atlantique. Alors Atlantique, Mati Diop a 37 ans, son film a eu le Grand Prix à Cannes, c'est-à-dire le deuxième prix en importance, elle a frôlé à la Palme d'Or, ce n'est pas rien. Atlantique, c'est un film infaisable. Film l'immigration vue de Dakar, certes, mais comment vous rendez compte du fait que des jeunes montent sur un petit bateau, vont en mer et se noient? Quelle visibilité il y a? Elle le fait du côté de ceux qui restent. Je voudrais que j'ai rapproché ces deux femmes parce qu'elles font des films difficiles à faire et qu'elles disent des choses intéressantes. Mati Diop est franco-sénégalaise, elle est née en France, elle n'a pas vécu son adolescence au Sénégal, même si elle est de temps en temps. Et au fond, ce film naît de cette nostalgie d'une enfance pas vécue. Elle fait un film en Wolof, uniquement avec des personnages noirs, et c'est important ce qu'elle dit sur l'identification. Écoutez-la.
Il y a une jeune femme, une jeune artiste de mon âge, qui m'a dit « Merci pour votre film. En tant que femme noire, je me suis sentie représentée. » Je pense que c'était la première spectatrice femme noire qui me disait ça. Depuis, c'est arrivé en France aussi. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Il y a beaucoup de choses dans ce film dont j'ai voulu parler, à la fois personnelles, politiques. Mais je crois que l'un des moteurs, ça a vraiment été d'offrir au monde un personnage féminin noir. Je n'ai pas du tout écrit ce film exclusivement pour un public noir, je l'ai aussi écrit pour que tout un autre public, blanc ou autre, s'identifie à des personnages noirs. Que ce qui a tendance à se produire, en gros une majorité de personnages blancs devant lesquels on est tous censés s'identifier, voilà, que l'inverse soit aussi possible, à la fois pour le public, mais pour moi aussi, parce qu'on fait aussi le cinéma qu'on a envie de voir.
Alors voilà, pour Mati Diop, en voilà une autre, elle s'appelle Danielle Leibovitz, elle est américaine cette fois, cinéma indépendant, le film s'appelle Port Authority, et c'est l'histoire, une histoire d'amour entre un hétérosexuel blanc et une transsexuelle noire.
Oui, et il y a aussi une autre chose qui est extrêmement importante, c'est que tous les deux vivent dans une grande précarité. Et la réalisatrice va donner ça à voir très très justement, par petites touches. Qu'est-ce que c'est que de ne pas savoir ce que sera votre lendemain? Lui, c'est un de ces jeunes qui débarque à la gare routière de Port Authority à New York et il sait pas où il va dormir le soir. Elle, transsexuelle, elle porte beau, mais tout est fragile. Comment elle va se nourrir, son appartement, combien de temps elle va pouvoir le garder? La réalisatrice Danielle Leibovitz, très très pudiquement, m'a dit qu'elle avait vécu enfin une forme de précarité, probablement pas aussi extrême que celle-ci, mais elle sait ce que c'est qu'être, au sens propre du terme, sur le fil. Et sur ce rapport à la précarité, écoutez la différence qu'elle fait, que je trouve très intéressante, entre l'Europe et les États-Unis.
There's a class consciousness in Europe that we don't have in the US.
Identities. En Europe, il existe une conscience de classe que nous n'avons pas aux États-Unis. Nos identités se forgent très différemment. La rhétorique sociale est en grande partie vue sous l'angle de la race ou du fait d'être queer ou d'autres choses comme cela. Il y a une fragmentation. Je voulais dans ce film qu'il y ait un dialogue entre deux personnes qui semblent venir de deux mondes différents, alors qu'en fait, elles ont énormément de choses en commun. Aux États-Unis, vous pouvez être blanc et vivre ce genre de choses, ou vous pouvez être noir et vivre ce genre de choses. Évidemment, l'arrière-plan politique et historique est très différent pour les uns et pour les autres. Mais ces gens ont une humanité en commun. Ils vivent des situations semblables. Je pense que s'ils arrivaient à se parler, à communiquer entre eux, cela pourrait provoquer beaucoup de changements bénéfiques.
Danielle Lesovitch, donc la réalisatrice de
Port Authority. Réflexion frappée au coin du bon sens. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de choses qui nourrissent des films, qui n'apparaissent pas frontalement. Si un film était un discours, ce serait épouvantable. C'est ce qui est formidable, c'est tout ce que
ça
les
fait
films
le
passent. Oui, non, mais c'est tout ce que ces films passent en contrebande. Qu'on voit, qu'on ressent intuitivement, qu'on peut voir ou moins voir ou plus voir. Et c'est ça dans l'un et l'autre film. C'est toujours c'est très souvent les sous-textes dans les films qui sont très intéressants.
Ben écoutez, ça donne envie.
Vous pouvez voir le vrai texte aussi, hein, c'est-à-dire le film.
Ça donne envie, en tout cas. Port Authority, signé Danielle Lesovitz. Et puis,
Atlantique,
signé Mati Diop. Merci beaucoup, Eva Bétan.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, c'est donc lors des auditions devant le Parlement pour les commissaires européens choisis par Ursula von der Leyen. Cet après-midi, c'était le tour de Sylvie Goulard et on va y revenir tout à l'heure dans le 19h avec Sébastien Paour. Demain, ce sera le grec Margaritis Skinas, merci de m'avoir laissé le prononcer, avec une vive controverse sur l'intitulé de son portefeuille, la fameuse protection de notre mode de vie européen. Et vous, malgré le tollé, vous avez envie de défendre cet intitulé, c'est votre monde à l'envers.
Ça doit être mon côté poil à gratter. Alors, avant toute chose, on va le préciser quand même, la polémique peut évidemment se comprendre. Les mots ont un sens et un poids symbolique. On peut entendre dans cette formulation quelque chose de douteux qui emprunte au vocable de l'extrême droite ou de la droite hongroise à la Orban, un sous-entendu de rejet systématique de l'immigration, un choix de vocabulaire qui exclut l'étranger par principe en utilisant cette première personne du pluriel. Hein. Notre mode de vie européen, sous-entendu par opposition à celui des autres, allez, poussons dans les arrière-pensées la défense d'une Europe forteresse contre l'invasion des hordes musulmanes. Éric Zemmour sort de ce corps. On comprend donc pourquoi cette formulation a suscité de vives réactions parmi les ONG, les partis de gauche et écologistes, et aussi un peu à droite. Sauf que, première objection, tout ça part d'une interprétation de la formule utilisée. Alors on va en revenir au fait, c'est-à-dire la lettre de mission, je l'ai sous les yeux, transmise par Ursula von der Leyen au commissaire Margaritis Skinas pour définir sa tâche. Il y a 6 pages, hein, c'est assez simple, vous pouvez les trouver sur le site de France Inter, je vous les mets en lien. Il y a 3 axes de mission. La lutte contre l'immigration irrégulière, c'est vrai, mais aussi la cohésion sociale par le travail, la culture et le sport, et la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Donc le propos dépasse de beaucoup la seule question des migrants. Et puis il faut ajouter que M. Skinas, qui est un pro-européen de longue date bien connu à Bruxelles, n'est pas connu pour avoir des sympathies d'extrême droite.
Donc dont acte, effectivement. Enfin, sur le fond, on peut quand même être choqué par la formulation qui a été utilisée.
Eh bien, même là, est-ce si choquant que cela? Alors là, je sens que je ne vais pas me faire que des amis, mais tant pis, je prends le risque. Premier point, y a-t-il un mode de vie européen? Globalement, la réponse est oui. Oui, il y a un fondement commun, depuis la Rome antique jusqu'au philosophe des Lumières, le respect de la dignité humaine, l'état de droit, un certain équilibre entre la laïcité et les religions, la liberté de se rassembler, de s'exprimer, de se vêtir comme on a envie, les droits des femmes, etc. Tiens, on pourrait continuer. Et dire cela, ça ne vous transforme pas pour autant en un épouvantable populiste, extrémiste et infréquentable. On pourrait même aller plus loin. L'Union européenne ne devrait-elle pas assumer, revendiquer tout cela fortement? D'ailleurs, c'est quand même bien ce mode de vie, cette liberté qui fait des envieux, qui attire les réfugiés qui frappent à nos portes, à Lampedusa en Italie, à Lesbos en Grèce, etc. Venons-en au deuxième point. Est-ce si choquant de protéger cela? Il faut quand même être naïf, aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas regarder en face les problématiques suscitées par l'immigration irrégulière. Il y a un enjeu de cohésion sociale. Et là encore, dire ça, c'est pas devenir pour autant un dangereux fasciste. C'est juste regarder le sujet en face. Et il vaut mieux le regarder parce que les flux migratoires, ils ne vont pas cesser.
Donc vous pensez qu'il faut bien garder notre mode de vie?
Alors, ce que je dis juste, c'est qu'il faut pas sauter comme des cabris en faisant un procès d'intention. On pourrait même dire en se posant la mauvaise question. Parce qu'on pourrait aussi renverser complètement la perspective et se demander jusqu'à quel point notre mode de vie européen est un modèle à suivre. Questions, quelques-unes. Est-ce que c'est un modèle à suivre de voir se creuser les inégalités sociales, les écarts de revenus entre les plus aisés et les plus démunis? Est-ce un modèle de promouvoir une croissance à tout prix? Est-ce un modèle d'utiliser des transports polluants, d'émettre des gaz à effet de serre à tout bout de champ, de créer des montagnes de déchets, de consommer de la viande à n'en plus finir, d'épuiser les ressources de la planète? En fait, le mode de vie européen, il serait peut-être bien inspiré d'évoluer face à l'urgence environnementale. Il y avait d'ailleurs une tribune très intéressante de Jacques Attali il y a quelques jours sur ce sujet. Peut-être que la controverse pertinente est plutôt là. Et Alors, il se murmure à Bruxelles que Ursula von der Leyen, face au tollé de ces derniers jours, serait disposée à modifier la formulation de ce fameux portefeuille. Si on mettait plutôt, par exemple, protéger le mode de vie européen en l'adaptant aux enjeux de la planète. Je dis ça, je dis rien.
Allez, eh ben écoutez, c'est dit. En tout cas, Jean-Marc Four et le monde à l'envers, c'est tous les jours, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est Sébastien Paour pour le journal et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.